France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est-il condamné à l'immobilisme? Et 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo, Esprit, es-tu là? Nos débatteurs ce dimanche, Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour Eric Gardette.
Éditorialiste au Monde, votre dernier ouvrage, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, ça a été publié chez Stock. Laetitia Stroche-Bonnard, bonjour. Essayiste, éditorialiste, de la France, le pays, ce pays que l'on croyait connaître, c'est votre dernier livre chez Perrin. François Jemaine, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des migrations et du climat, président du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme, l'écologie n'est pas un consensus, c'est ce que vous nous disiez chez Fayard en 2022.
Avant que Bolloré ne mette la main sur la maison.
Ah oui, c'est vrai que Fayard a changé de main. Vous en avez peut-être un prochain à venir dans une autre maison d'édition.
Dans une autre, bien sûr.
Bon, on verra, on le signalera quand ce sera le moment. Et puis Magali Lafourcade, bonjour.
Bonjour.
Magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous avez sorti un ouvrage justement sur les droits de l'homme. C'était dans la collection, si je ne m'abuse, Que sais-je ?
Tout à fait.
Et meilleurs vœux à tous les quatre, ainsi qu'à nos auditrices et à nos auditeurs. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur un anniversaire. Il y a tout juste 10 ans, le 7 janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo, attentats aussitôt suivis d'un ample mouvement de sursaut républicain, le fameux Esprit Charlie. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Nous en débattrons. Mais pour commencer, retour en 2024, c'était mardi soir, 31 décembre. Pour la 8e fois, Emmanuel Macron présente ses vœux aux Françaises et aux Français.
Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité, et j'en prends toute ma part.
Et l'exercice a beau être un rituel, il n'est en rien une routine, y compris quand vous le pratiquez, donc pour la 8e fois, comme l'a fait Emmanuel Macron mardi soir. Vœux présidentiels du 31 décembre, rendez-vous traditionnel avec les Françaises et les Français. À ceci près que les vœux en question sont venus clore une année complètement folle sur le plan politique, à l'issue de laquelle le chef de l'exécutif apparaît affaibli comme jamais. En décidant de dissoudre l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron s'est pour ainsi dire déprésidentialisé. Une partie du pouvoir qu'il exerçait jusque-là lui échappe, sans majorité, ni absolue ni relative à l'Assemblée nationale, le macronisme a perdu de sa centralité. Pour autant, Emmanuel Macron a-t-il vocation à inaugurer les chrysanthèmes, voire à abréger son mandat pour répondre aux attentes d'une partie de l'opposition? Bien, ce n'est pas le message qu'il a voulu envoyer mardi soir à ses compatriotes. Discours volontariste malgré tout. Sur le plan intérieur, la France doit tenir ses finances, j'y veillerai. Comme sur le plan extérieur, les Européens doivent en finir avec la naïveté, dire non aux lois du commerce édictées par d'autres. Des déclarations d'intention assorties d'un début de promesse. En 2025, a-t-il dit, nous continuerons de décider et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Traduction, même si le mot n'a pas été prononcé, place au référendum ou à défaut à de nouvelles conventions citoyennes, comme ce fut le cas pour le climat ou la fin de vie. Alors, arbitre par nécessité, le chef de l'État dispose de l'arme référendaire ou consultative pour tenter d'exister encore politiquement, mais c'est une arme à double tranchant qui peut se retourner contre celui qui l'utilise si le vote référendaire se transforme en plébiscite. Emmanuel Macron le sait bien, lui qui n'a jamais osé y recourir jusque-là. Dès lors, est-il condamné à l'immobilisme, à la discrétion, ou bien nous réserve-t-il pour 2025, comme en 2024, d'autres surprises? Laetitia Stroche-Bonnard, Emmanuel Macron démarre donc cette année 2025. Dans quelle position diriez-vous? C'est-à-dire, est-ce que c'est une position de faiblesse? Est-ce que c'est un président de la République qui est affaibli comme jamais? Ou bien est-ce qu'il a quand même montré mardi soir quelques velléités de continuer d'exister politiquement?
Bien sûr qu'il est en position de faiblesse. Je ne sais pas s'il en a conscience, mais en tout cas, objectivement, sa crédibilité, sa légitimité ont été très endommagées. Une grande majorité de Français ne lui font plus confiance. Selon un récent sondage, même publié par le Figaro, une majorité de Français est inquiète, trouve le personnage présidentiel inquiétant, ce qui en dit long. Oui, il est clairement en position de faiblesse et tout ce qu'il pourra faire ou dire, à mon avis, ne servira pas à grand-chose. Il y a quelque chose qu'il a toujours dévalorisé ou sous-estimé depuis le début, c'est la vertu du silence en politique. Le silence, la discrétion, la sobriété, l'intervention bien réfléchie et mesurée sont des vertus politiques, et d'autant plus celles d'un président de la République qui est supposé présider et non pas gouverner.
Bon, on peut pas lui reprocher d'avoir parlé le 31 décembre. En plus, son intervention était un peu plus courte que d'habitude, quand même.
Bien sûr qu'il est de coutume que le président de la République adresse ses vœux aux Français le 31 décembre. Mais politiquement, on a l'impression qu'il essaie à nouveau de se relancer. On le voit par exemple dans sa relation avec le Premier ministre. Il est beaucoup plus présent dans la relation avec le gouvernement qu'il avait pu l'être avec Michel Barnier, qu'il avait quand même mis à distance. Et puis, il recommence à donner son avis un petit peu sur tout. Et comme d'habitude, il change d'avis. Parce que si vous écoutez ce qu'il dit sur le commerce, il dit aujourd'hui, il faut cesser de se faire imposer les règles commerciales par les autres, mais c'est exactement le discours de Donald Trump depuis 2016 et même avant, depuis 2015, depuis la campagne électorale aux États-Unis. Donc c'est quand même très étrange d'avoir une tentative de relance politique, mais sur des termes qui ne correspondent pas du tout à ce que Emmanuel Macron nous a présenté il y a plusieurs années.
À propos de la question du commerce d'ailleurs, alors Sylvie Kaufmann, j'ai vu sur le réseau Blue Sky, je vous suis, que vous avez relevé justement cette phrase d'Emmanuel Macron lors de ses vœux, dire non aux lois du commerce édictées par d'autres et que nous sommes les seuls à encore respecter. Vous avez ajouté un petit emoji dubitatif.
On peut rien vous cacher, Hervé. C'est vrai que ça m'a interloqué un peu cette expression, c'est la formulation, cette phrase, les lois, dire non aux lois du commerce que d'autres ont édicté et que nous sommes encore les seuls à respecter. Je crois que c'était ça la phrase. Je ne vois pas à quoi exactement il fait allusion. Si on parle de loi en tant que telle, je ne vois pas de quoi. Si on parle de l'OMC, ça n'a pas été édicté par d'autres. La France a participé à cette institution. Donc je ne sais pas exactement. C'est pour ça que j'ai m'étais exprimée sur. J'avais voulu exprimer un peu ma perplexité sur.
Si on parle des règles de la concurrence européenne, c'est la même chose.
C'est-à-dire oui, c'est ça. Voilà. Donc, je pense qu'en réalité, c'est probablement cette formulation exprime plus un mouvement de une volonté de rompre avec cette naïveté qu'il dénonce d'ailleurs depuis un certain temps d'ailleurs, qui est que finalement les Européens, puisque nous sommes très attachés à l'état de droit, au respect des règles, etc., finalement peut-être devons-nous aussi nous affranchir de certaines obligations que plus personne ne respecte. C'est peut-être ça que ça voulait dire, mais ça demande un peu de, je pense, d'éclaircissement. Voilà, mais sinon je trouve sur ce message. Alors j'aime beaucoup cette expression de vertu du silence parce que c'est un peu un oxymore pour notre président. Encore que il l'a relativement observé pendant le très bref gouvernement Barnier. Il avait réussi à s'extraire un petit peu de la politique intérieure et laisser Barnier s'exprimer. Je pense que ça sera différent apparemment déjà on voit que c'est assez différent avec Bayrou. Je crois que une des raisons, c'est parce que Emmanuel Macron est beaucoup plus à l'aise, certainement malgré leur clash initial avec François Bayrou qu'il l'a été avec Michel Barnier.
Donc il y a quand même une proximité politique. Enfin, en tout cas, en 2017, Bayrou a été un des grands soutiens d'Emmanuel Macron.
Grâce à lui qu'il a pu être élu en 2017. Donc ils se connaissent bien. Voilà. Donc je pense que là il y aura la tentation, et on l'a vu dès le premier Conseil des ministres, apparemment, d'après ce qu'ont rapporté les journalistes, il y aura une tentation d'être un peu plus interventionniste. Alors il y a cette allusion à la possibilité de référendum, mais comme vous disiez, c'est une arme à double tranchant, parce qu'évidemment on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, comme Marine Le Pen, se précipiterait pour appuyer encore plus leur revendication de son départ. Et on ne voit pas non plus sur quoi porteraient ces référendums.
Je précise,
donc,
attention, oui. Ce ne serait pas un référendum sur est-ce qu'il doit rester ou non.
C'est-à-dire non, bien sûr, mais
s'il perdait, on va dire, un référendum, il pourrait y avoir la demande que Emmanuel Macron en tire les conséquences, comme l'avait fait le général de Gaulle.
La position du général de Gaulle, j'imagine, mais évidemment, ça pourrait être exploité par ses adversaires. nécessaires et qui manqueront pas de le faire, j'imagine. Mais l'autre chose, donc je pense sur la scène intérieure, il reste quand même très bridé, très coincé dans cette très très profonde crise politique que nous avons. Hein. Il faut pas se le cacher. L'ampleur de cette crise à laquelle nous sommes confrontés est quand même énorme. Sur le plan international, je crois que c'est un petit peu différent parce que il garde certains leviers. On a d'abord, il a le levier institutionnel hein, que lui accorde la Constitution. Il reste quand même maître, y compris avec le gouvernement, mais il reste maître de la politique extérieure et chef des armées. Et puis sur le plan politique, il a placé dans le gouvernement des gens avec lesquels il peut travailler, bien entendu. Sébastien Lecornu à la tête du ministère des Armées.
Jean-Noël Barrot,
qui est vice-président du MoDem, mais dont on voit qu'ils sont tout à fait compatibles sur la politique étrangère. Benjamin Haddad, qui est totalement aligné sur la politique européenne du président. Donc là, on voit qu'il pourra continuer à œuvrer. Après, et je ne pense pas que François Bayrou, contrairement à Barnier, qui avait voulu garder un peu un levier, je ne pense pas que François Bayrou intervienne là-dedans, puisque lui, il a l'air plus intéressé par Pau que par Bruxelles.
Et on aura peut-être un indicateur supplémentaire de la façon qu'Emmanuel Macron voudra peser sur la scène internationale demain, puisque le président de la République recevra la conférence des ambassadeurs. Magali Laforcade, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de l'intervention du chef de l'État et de sa façon de se positionner pour l'année 2025? Est-ce que c'était une forme de volontarisme politique? Est-ce que c'était cette idée de recourir, même si le mot, je le disais, n'a pas été prononcé au référendum ou à des conventions citoyennes, c'est-à-dire utiliser finalement aussi les outils que lui permet la Constitution pour continuer d'exister?
Je pense que ce qu'on a pu voir, c'est qu'il hésite entre deux postures. Hein, et il oscille vraiment depuis longtemps là-dessus. D'un côté, il s'est présenté comme étant un peu en surplomb, en essayant d'être arbitre, donc de présider plutôt que d'être garant plutôt que gouvernant. Et puis, d'un autre côté, il a voulu se placer aussi au centre du jeu pour rappeler sa politique, travailler plus, innover plus. On est resté dans la politique de l'offre. Donc, il a envie de préserver, en gros, le cap qu'il avait essayé de donner au pays sur le plan économique depuis 7 ans. Et on le voit aussi au niveau international, avec des phrases un peu sibyllines, comme l'a rappelé Sylvie Kaufmann tout à l'heure, au niveau européen. Ce qu'il y a, c'est que concrètement, sa voix, elle pèse beaucoup moins aujourd'hui au niveau international. Le fait que la France ait un niveau de dette à ce point important, d'ailleurs, sa note a été encore dégradée par l'agence Moody's récemment, le fait que donc elle se positionne comme un des pays les plus mauvais de la classe au niveau de l'Union européenne, sur le plan budgétaire et financier, le fait qu'il n'y ait pas de perspective de redressement à court terme et moyen terme à cause de l'instabilité politique, tout ça fait quand même que la voix du président français est très relativisée au niveau de l'Union européenne. On l'a vu avec l'accord sur le Mercosur que la présidente de la Commission européenne est allée signer malgré le refus français catégorique qui avait été présenté par le président Macron. Et puis au niveau national, moi je serais un peu moins pessimiste, parce que Emmanuel Macron, il a quand même montré une capacité à nous étonner. Il a été le premier à innover avec les conventions citoyennes. Alors bien sûr, avec des résultats qui ont été décevants, pas sur le système de la convention citoyenne, qui a montré vraiment une capacité des Français tirés au sort à être déjà sociologiquement très descriptifs de la société, à porter des mesures radicales et avec une très grande adhésion populaire aux mesures proposées. Donc c'était un dispositif très intéressant. Là où il y a eu de la déception, c'est sur l'appropriation politique des conventions des conventionnels.
Surtout sur le climat, parce que s'agissant de la fin de vie, alors on attend toujours la loi, espérée pour début 2025.
C'est un peu dans les limbes, mais pour le climat, on a vu que cet instrument qui est utilisé par quantité de pays maintenant, avec à chaque fois des résultats très intéressants sur le plan démocratique, pourrait être mobilisé. Mais il y a deux écueils qui me semblent importants. C'est d'abord, il faut qu'il évite de faire un grand débat dans les mains du pouvoir, parce que ça, on a déjà eu après les Gilets jaunes. On a vu que les Français s'étaient mobilisés, ils ont rempli des cahiers de doléances. Il y a eu plus de 6000 pages qui ont été numérisées, pas du tout d'exploitation derrière. Donc encore une fois, il faut être sérieux, c'est-à-dire que si on donne la parole aux Français, moi je suis pas très convaincue qu'il va faire s'engager sur une voie référendaire, parce que c'est quand même très très difficile. En revanche, sur l'idée d'un grand débat, ça pourrait être un peu plus intéressant, et dans ce cas, il faudra un audit très large pour réapproprier la démocratie par les citoyens.
François Jomène, qu'est-ce que vous en attendez, vous, d'Emmanuel Macron 2025?
Bien d'abord, je voudrais commencer par dire que je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il soit dans une position de faiblesse par rapport à son gouvernement. Il faut quand même rappeler que nous ne sommes pas dans une situation de cohabitation. Il a refusé de nommer un gouvernement de gauche alors que c'était pourtant le Nouveau Front Populaire qui était sorti en tête des élections. Il a nommé un gouvernement de proche. Il faut quand même rappeler que François Bayrou, qui est parfois décrit comme un opposant politique désormais, enfin c'est quand même un soutien de la première heure du président. Et donc son gouvernement, c'est un gouvernement de proche. Cela étant, il reste quand même dans une position de faiblesse, non pas parce qu'il soit faible vis-à-vis de son gouvernement, mais parce que son gouvernement lui-même est dans une situation de faiblesse à cause de deux facteurs. D'abord, de la situation budgétaire calamiteuse du pays que Magali vient de rappeler et qui lui est quand même largement imputable. Il aurait pu mettre Bruno Le Maire sous tutelle ou assurer un contrôle un peu plus direct sur son ministre. Et puis aussi parce que aujourd'hui le paysage politique français est fragmenté en une dizaine de formations politiques qui sont à l'évidence peu enclines à une logique de coalition et donc à une logique de compromis. Et donc il a un gouvernement très affaibli. Et donc de ce fait, il se retrouve
un très gouvernement affaibli. Très affaibli, François Jomène, avec de très fortes personnalités, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, Manuel Valls. Est-ce que ça ne dilue pas quand même le pouvoir du président de la République?
De personnalités. Quand on voit le rejet que suscite quelqu'un comme Manuel Valls, j'y attention quand même avec cette idée de forte personnalité. Ce sont surtout des personnalités très impopulaires dans l'opinion, certes un peu connues, mais malgré tout assez impopulaires dans l'opinion, et aussi une palanquée de ministres complètement inconnus du grand public. Et donc, à partir de cet état de fait, quelles sont les options qui s'offrent à lui personnellement? À mon avis, il a deux options devant lui. La première, c'est d'assumer pleinement son rôle de monarque, et donc de continuer à multiplier les commémorations et les panthénonisations. Là-dessus, nous avons un champion olympique en la matière. Il peut aussi s'impliquer dans des opérations caritatives, aller réconforter les victimes de catastrophes comme il l'a fait à Mayotte, et ça lui permettra peut-être de regagner quelques points de popularité dans l'opinion. Ou alors, l'autre option, il peut choisir de devenir une sorte de Jimmy Carter à la française pendant son mandat présidentiel et choisir de s'impliquer dans des causes humanitaires. Ou pourquoi pas, si je peux lui souffler un conseil, de relancer la diplomatie du climat. On voit bien à quel point les négociations internationales sur le sujet sont en panne. Elles vont être paralysées sans doute par la présidente Donald Trump. Il avait trouvé un véritable élan au début de son premier mandat avec cette idée de « make the planet great again », de relancer la diplomatie du climat. C'est là peut-être où son rôle pourrait être absolument déterminant.
Donc plutôt que d'endosser un costume d'ambassadeur, par exemple, du climat qu'il pourrait faire, qu'il pourrait adopter après avoir terminé son mandat présidentiel, vous conseillez presque de le dire.
Il vaut mieux le faire maintenant. La fin de son premier quinquennat officiellement et d'entrer dans une nouvelle phase où, en quelque sorte, il se donnerait déjà un rôle d'ex-président tout en étant toujours président.
Voilà, on a commencé ce tour de table en disant que Emmanuel Macron était plutôt faible. Et puis, au fur et à mesure que je donnais la parole, il s'est renforcé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laetitia Stroche-Bonnard?
Je ne le trouve pas plus fort à la fin du tour de table, hein, parce qu'il a quand même été bien exclu du jeu politique concret. Là, on parle déjà d'Emmanuel Macron au futur et au passé. C'est-à-dire, on imagine ce qu'il fera quand il ne sera plus président, mais il pourrait quand même commencer à le faire en étant président. Il me semble quand même qu'il est très affaibli.
J'ai lu dans le Figaro qu'un certain nombre de ses adversaires en parlaient désormais au passé d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est possible, mais c'est même assez tragique, en fait, son destin, d'une certaine façon, parce que il est arrivé sur la scène politique en apportant beaucoup d'espoir, en tout cas pour certains, pour les gens qui l'ont choisi. Il promettait de faire la révolution, il promettait de changer, de dépoussiérer la France et ses pratiques corporatistes. Il l'a fait en partie. Et puis, il s'est arrêté net, et je pense que c'est le moment des Gilets jaunes, en fait, qui a constitué une rupture dans sa volonté de réforme, parce qu'après 2018, finalement, tout a changé. Et c'est assez triste, c'est à se demander quand même si le fait d'avoir le pouvoir, et notamment en France, n'est pas un facteur d'immobilisation ou même d'immobilisme. À partir du moment où vous avez les clés de l'Élysée, eh bien, vous adoptez, vous avez tellement de pouvoir, vous avez tellement de prestige, il y a presque une dimension sacrée du pouvoir présidentiel en France, que vous ne pouvez plus, finalement, réaliser les choses que vous aviez promises, parce que pour les réaliser, il faut gouverner, il ne faut pas présider. Donc c'est un peu le drame, je pense, de notre système politique. Et pour moi, c'est une confirmation de plus que nos institutions, notre structure politique n'est plus adéquate, ne correspond plus à ce dont la France a besoin aujourd'hui.
Sylvie Kaufmann.
Oui, alors sur le fait que certains parlent du président au passé, de président Macron au passé, vous faites allusion, je pense, à l'éventualité de sa démission. Et à laquelle certains appellent. Et je note que François Hollande, dans une interview à Ouest France aujourd'hui, dit attention, faites très attention, il ne faut surtout pas pousser cet appel à la démission. Il ne faut pas qu'il démissionne, il faut qu'il aille jusqu'à la fin de son mandat, parce que sinon, ça ouvre une démission, ouvrirait une crise institutionnelle majeure dans notre pays.
Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est déjà ouverte, de toute manière, la crise, non ?
La crise est ouverte, ça c'est clair, elle est profonde. La crise institutionnelle, elle n'est pas encore totale, si vous voulez. C'est vrai que alors une dissolution de l'Assemblée d'ici 6 mois produirait vraisemblablement le même résultat que l'année dernière, donc ça ne changerait pas grand-chose. La démission du chef de l'État dans la foulée, ou avant ou après, là c'est quelque chose dont on ne mesure pas encore les conséquences, mais qui, je crois, approfondirait dangereusement, sans doute, enfin en tout cas c'est le message de François Hollande, cette crise. Il y a une date qu'il faut garder aussi présente à l'esprit là-dedans, pardon, c'est celle du 31 mars, qui est le jugement qui devrait intervenir dans l'affaire des assistants parlementaires de Marine Le Pen, pardon, et qui déterminera bien évidemment l'attitude de Marine Le Pen selon que cette inéligibilité avec exécution provisoire est prononcée ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut se présenter à l'élection présidentielle en 2027 ou avant d'ailleurs, ou pas. Sur l'autre volet de notre débat, est-ce qu'il est faible ou pas, je pense que sur le plan international, il n'est pas... Bien sûr, Magali Lafourcade a tout à fait raison, l'influence d'un pays se mesure aussi, pas seulement à son siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui par ailleurs est paralysé, ou à sa puissance nucléaire, mais aussi à son poids économique. Et de ce point de vue-là, la France et la position de son président sont extrêmement affaiblies, c'est certain, y compris dans l'enceinte européenne. En même temps... Il garde, quand vous parlez avec les acteurs diplomatiques européens, vous vous rendez compte que, en dehors de notre petit théâtre politique intérieur, vous vous rendez compte qu'il est un personnage qui compte encore et sur lequel encore beaucoup de gens comptent, notamment dans l'Est de l'Europe, la Pologne, les pays baltes. Il reste un interlocuteur important et il reste quelqu'un qui a des idées. C'est aussi un homme de coup, alors que pour le pire et le meilleur. Par exemple, je crois qu'on sous-estime ce qu'il a fait à Notre-Dame, à l'occasion de l'inauguration de Notre-Dame au mois de décembre, en réussissant à réunir le président élu Donald Trump et le président ukrainien Zelensky. C'est quelque chose qui, dans les milieux diplomatiques, a été considéré comme un coup important. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas encore, mais c'est quelque chose qui était vraiment qui... beaucoup ont dit dans les commentaires, on avait beaucoup à l'extérieur de la France, chapeau, il fallait le faire. Par ailleurs, on peut pas effacer deux pays. La France et l'Allemagne sont deux pays qui ont des difficultés économiques et politiques intérieures certaines. En même temps, on peut pas les effacer complètement. Regardez qui est allé en Syrie ces derniers jours. Au nom de l'Europe, de l'Union européenne, c'est le ministre français et la ministre allemande des Affaires étrangères. Voilà, donc je pense que si Macron sait utiliser ce levier qu'il détient encore d'une certaine image internationale, d'un poids militaire aussi de la France et dans la crise ukrainienne et dans l'éventuelle solution de la crise ukrainienne, ça compte. S'il sait s'en servir habilement et sans surjouer et en organisant des alliances autour de lui, je pense que c'est quelque chose qu'il peut continuer à faire.
Ça rejoint un petit peu ce que vous préconisiez, François Gemène, c'est-à-dire un rôle de facilitateur.
Je pense en tout cas que c'est là peut-être où effectivement son rôle était le plus apprécié. Je me souviens de Make Our Planet Great Again en 2017, où là effectivement son rôle avait été très apprécié. Il avait d'ailleurs reçu toute une série de prix environnementaux pour souligner son action et d'une certaine manière pour l'encourager à continuer dans ce sens. Et là il me semble que c'est un rôle qu'il pourrait endosser et qui lui conviendrait au fond assez bien.
Un dernier mot, Magali Lafourcade, sur la question du référendum. Alors, on verra bien s'il va jusque-là. Il ne l'a pas dit. Ça pourrait être, vous le disiez tout à l'heure, et vous décriviez les précédentes conventions citoyennes. S'il devait y avoir un référendum, ça pourrait être sur quel sujet intéressant, sachant que pour l'instant, la Constitution établit des règles assez strictes sur le cadre, justement, référendaire.
Donc, quand on est sur dans le cadre de l'article 11, on est très limité dans le domaine. Enfin, très limité, non, il y a quand même de quoi faire, mais on ne peut pas aller forcément, enfin, nécessairement sur les sujets sociétaux. Or,
organisation des pouvoirs publics, réforme concernant la politique économique, sociale ou environnementale, ou bien permettant la ratification d'un traité.
Voilà, donc sur des sujets qui peuvent être vus comme étant déjà tranché comme en 2005, le dernier référendum sur l'article 11, le non l'avait emporté et l'avait emporté largement avec 54,7%. Et donc on voit que depuis, l'outil référendaire n'a plus été utilisé. Et si on veut aller avant ça, c'était l'article 89 sur le quinquennat en 2000. Donc on voit à quel point cet outil mériterait d'être réutilisé. Simplement, le champ de l'article 11 étant réduit, il est à craindre que ce soit que sur un texte, puisqu'on vote sur un texte, donc que ce soit sur un texte qui soit assez consensuel, transpartisan, et qui finalement mobilise assez peu l'intérêt du citoyen. Et donc, dans ce cadre-là, ça c'est pas très intéressant comme outil. Ce qui serait intéressant, c'est une pluralité.
Il faut que ça soit consensuel. On peut trouver un sujet qui l'est peut-être moins. Alors, j'ai vu que Sandrine Rousseau, par exemple, proposait un référendum sur la réforme des retraites.
Oui, mais jamais le président Macron le ferait. Donc, il faut que ce soit sur proposition du gouvernement, il faut qu'il y ait une information donnée à chacune des assemblées. Donc, on voit que ce qui pourrait être porteur, ce serait quelque chose qui soit assez mou, finalement. Donc, là, ce qui serait intéressant, ce serait plutôt qu'il renverse la problématique et qu'il utilise plein de référendums avec des orientations politiques différentes pour ne pas s'enfermer dans quelque chose de plébiscitaire et pour que ce soit pas répondre à celui qui pose la question plutôt que répondre au sujet qui est posé. Et puis, ensuite, il y a cette idée que ça pourrait être un outil, une méthode carrément pour fixer des orientations générales au gouvernement et laisser ensuite débattre les assemblées sur la base de ces orientations.
Mais vu son impopularité, tout référendum va forcément se transformer en plébiscite, non ?
S'il annonce qu'il en fait 4 dans l'année sur tel et tel sujet et sur des textes qui sont...
Vous voulez transformer la France en Suisse, en Confédération helvétique,
Magali Fossel. En Suisse.
Mais voilà. Ça serait peut-être une façon d'en sortir par le haut, ceci dit. On voit bien qu'il y a une crise institutionnelle, même une sorte de crise de régime, des appels ici et là à la démission. Peut-être qu'une manière d'en sortir par le haut, ça serait pour lui de proposer une 6e République, une réforme institutionnelle majeure, et puis de se retirer.
Et pour ça, il faudrait que ce soit issu d'un grand débat aux mains des citoyens qui laissent une place à l'expertise d'usage du citoyen sans considération de fortune et de diplôme. Et c'est ça ce que fait la Suisse et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Voilà. Je crois que ce sera un modèle vraiment à suivre.
En tout cas, ça fait pas mal de suggestions à suivre pour Emmanuel Macron, si il nous écoute.
Voilà. Ce matin.
On verra s'il nous écoute fidèlement. On passe à notre deuxième sujet, il est 11h27 sur France Culture. Mardi, ce seront les commémorations du 10e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Je suis Charlie, je suis Ahmed, je suis Yoav. De nombreux manifestants se sont arrêtés devant cette banderole tout près de Nation pour immortaliser ce moment, car cette marche dépassait largement le combat pour la liberté d'expression. David est juif, il brandit une pancarte en hommage aux victimes de Charlie, bien sûr, mais également de Montrouge et du cours de Vincennes. Et à côté de David, des musulmans portent une affiche sur l'islam, une religion de paix et de tolérance, une religion qui condamne ces assassinats. Et c'est cela qui est historique aujourd'hui, au-delà de la défense de la liberté de la presse. Ces milliers de citoyens sont venus soutenir le pluralisme, la République, la démocratie.
Le 11 janvier 2015, il y a donc presque 10 ans, plus de 4 millions de personnes se rassemblaient pour marcher ensemble un peu partout en France. Marche républicaine, réaction quasi spontanée, viscérale, après que le pays a été frappé par des attaques terroristes sans précédent, d'abord contre la rédaction de Charlie Hebdo, ensuite contre l'hypercachère de Vincennes aux portes de Paris, 17 personnes assassinées au total. Un slogan se développe de manière virale et réunit la plupart des manifestants, « Je suis Charlie », une façon d'exprimer sa douleur, sa compassion à l'égard des victimes, sa solidarité avec les survivants, son attachement à la liberté d'expression, bien d'autres choses encore sans doute. « Je suis Charlie » est un étendard que chacun s'approprie à sa façon. 10 années ont passé. Mardi 7 janvier, date anniversaire des attentats au siège du journal satirique, plusieurs cérémonies auront lieu à Paris, en présence notamment du chef de l'État, de la maire de Paris et de plusieurs ministres. Des cérémonies annoncées comme sobres, conformément aux souhaits des familles. Mais une sobriété absente des débats aujourd'hui autour des questions liées à la liberté d'expression, à la caricature, au respect des religions, à l'islam surtout, et plus encore autour de la laïcité. Revendiquer l'esprit Charlie revient désormais non plus à faire œuvre de concorde nationale, mais de plus en plus souvent à combattre des adversaires, à gauche comme à droite. Si bien qu'on se demande aujourd'hui ce qu'il est advenu de cet esprit Charlie, à supposer bien sûr qu'il ait jamais existé. Nous sommes toujours en compagnie pour en discuter de Laetitia Stroche-Bonnard, François Gemène, Magali Lafourcade et Sylvie Kaufmann. Sylvie Kaufmann, alors exercice peut-être un petit peu compliqué pour commencer, mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par Esprit Charlie ? Pour vous aider peut-être un petit peu, la dernière fois que vous êtes venu, vous nous aviez dit que vous aviez demandé à ChatGPT de résoudre le conflit israélo-palestinien. Moi, je lui ai demandé... à cette intelligence artificielle, ce que c'était que l'esprit Charlie. Et en résumé, on peut lire ceci, qui me semble pas si mal. L'esprit Charlie représente un attachement profond à la liberté d'expression, à la laïcité, à la satire et à la résistance à la censure, tout en mettant l'accent sur la solidarité face à l'extrémisme. C'est pas mal pour résumer l'esprit Charlie.
Oui, c'est assez synthétique et c'est pas mal vu. L'esprit Charlie, je pense qu'il faut quand même se resituer dans ces jours absolument terribles de janvier 2015. Et je crois que l'esprit Charlie collait vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire ce qui a amené dans la rue ces 4 millions de personnes de manière assez inattendue, je pense. C'est-à-dire que je crois que quand on s'est retrouvé dans la rue, on pensait pas qu'on allait être 4 millions, en gros. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Angela Merkel, dans ses mémoires, raconte comment elle a contacté François Hollande pour lui proposer de venir à cette manifestation, une fois qu'elle a appris qu'elle était organisée. Et la première réaction de François Hollande, qui apparemment ne s'en rappelle pas parce qu'il en fait un compte-rendu différent, a été « Non, non, c'est pas la peine ». Et elle a dit « Si, je viens ». Parce que elle a... Enfin, bien entendu, François Hollande avait sans doute d'autres choses en tête, l'organisation, etc. Bon. Mais elle aussi a compris qu'il fallait venir et les gens qui sont venus tous ensemble ne savaient peut-être pas qu'ils seraient aussi nombreux. Mais cet esprit Charlie qui les a amenés là, c'était, je crois, c'est un esprit très français, en fait. C'est un esprit frondeur, irrévérencieux, impertinent, c'était tout ça. Les gens ne connaissent beaucoup... L'immense majorité de ces gens ne lisaient pas, n'étaient pas des lecteurs de Charlie Hebdo, bien entendu, qui tiraient, je crois, 30 000 exemplaires à l'époque. Mais c'est ce que ça représentait. Et je crois que c'est vraiment quelque chose dans la tradition française, dans l'ADN français, j'irais même jusqu'à dire, qui est cet attachement viscéral, vous disiez tout à l'heure, et je crois que c'est vrai, à la liberté d'expression, à l'irrévérence, à l'indépendance, à la liberté tout court, et aussi une façon d'exprimer sa résilience et sa résistance.
Il y a eu aussi un phénomène de sidération, quand même, qui a peut-être aussi provoqué cette réaction.
Il y avait la sidération, l'horreur de cette, d'abord, de ce massacre dans un journal. Satirique, bien sûr, mais qui, voilà, l'assassinat de plusieurs journalistes et des gens qui travaillaient avec eux. Ensuite, l'hypercacher, qui était aussi dans une autre dimension tout aussi monstrueuse, cette policière. Donc tout ça, bien sûr, il y avait cet esprit de sidération et il y avait une sorte de sentiment de révolte froide qui était « on ne se laissera pas faire ». Dans une proportion moindre, il y a aussi cette réaction après le 13 novembre, je ne sais pas vous rappeler le hashtag « Je suis en terrasse » où les gens allaient se mettre en terrasse pour dire « Mais on ne va pas nous empêcher de vivre notre vie de café, de musique, de liberté et de culture française. » Donc je crois que c'était ça l'esprit Charlie, c'était une volonté de manifester tout ça et d'exprimer cette solidarité, cette résilience. Et juste pour terminer là-dessus, j'ai lu dans une des interviews qui sont publiées dans la presse ces jours-ci, celle de François Molins, qui était procureur à ce moment-là, procureur général, non,
c'est procureur de Paris.
Procureur de Paris, et qui dit c'était le dernier moment, le 11 janvier était le dernier moment de concorde nationale que nous ayons vécu. Je pense que, et j'espère que ces événements ne se reproduiront pas, mais je crois que les Français réagiraient de la même manière à nouveau aujourd'hui.
Ah bah c'est justement la question que j'allais vous poser, Magali. Lafourcade. Parce que, alors, Sylvie Kaufmann nous a bien expliqué ce que c'était que cet esprit Charlie. Qu'est-ce que c'est encore aujourd'hui? Est-ce que cet esprit Charlie, il pourrait survivre aujourd'hui? Alors, évidemment, on va pas se dire, on va évidemment pas souhaiter que de tels événements se reproduisent. Mais enfin, en tout cas, est-ce que la société en est encore là aujourd'hui? Est-ce qu'il pourrait y avoir une telle concorde nationale? Aujourd'hui, on l'a vu, par exemple, il y a quelques mois, lors de la grande marche contre l'antisémitisme en France, alors qui était peut-être moins universelle, on va dire, que ces manifestations après les attentats de Charlie, mais on a bien vu que la fréquentation, la mobilisation avait considérablement baissé.
Alors, certes, on a aussi des sondages qui disent qu'il y a un effritement des gens qui se reconnaissent dans le mot d'ordre être Charlie. Mais moi, je partage vraiment l'opinion de Sylvie Kaufmann. Je crois que si des événements, des attentats... De toute façon, on a vu ça à chaque fois qu'il y a eu des attentats dans les années 80, comme après dans les études de la CNCDH. À chaque fois, il y a un sentiment de fraternité et de tolérance qui vraiment progresse avec l'idée que on est juif, on est musulman, on est Charlie. C'était ça le mot d'ordre. C'était beaucoup plus large que juste la liberté d'expression. C'était un grand sentiment de fraternité.
Ça c'était moins vu quand même à Toulouse, à l'école aux Arabes, avec la fermière. Quand
tout
même.
À fait. Et c'est un tort. Je pense qu'on a vraiment mal cadré ce qui s'est passé en 2014 avec la fermière. Et justement, il faudrait pas que cet hommage-là de mardi invisibilise les victimes de l'hypercachère, car c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Et depuis, on est quand même dans une période d'explosion de l'antisémitisme en France. Je rappelle le chiffre 2023, c'est plus de 184% des chiffres de la DNRT du ministère de l'Intérieur. Quand on ramène ça à la population concernée et à la nature des actes commis, c'est gravissime. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas de délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ça, c'est si Monsieur Bayrou nous écoute, ce serait souhaitable de le nommer, puisque ça date depuis juin dernier que nous n'avons pas délégué pour mener cette politique de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Non, je crois vraiment que au moment de la sidération, au moment du choc, il y a eu derrière ce mot d'ordre être Charlie quelque chose de très fort qu'on retrouverait si on avait un choc de même nature, mais qu'après il était le temps du débat et que dans le temps du débat, il était normal dans une société ouverte, pluraliste, démocratique de se poser la question de est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce que un petit journal satirique qui a comme étendard l'irrévérence doit susciter l'adhésion de tous? Bien sûr que non, c'est normal. Par contre, le fait qu'il existe encore dans ce pays et alors qu'il ne viole jamais la loi, est une chance. Donc ça aussi, c'est très important. Je crois que le débat autour de la laïcité a fracturé beaucoup la gauche, a aussi été l'objet d'une réappropriation par une partie de la droite. Je crois que les mots autour de la liberté d'expression ont aussi évolué. Donc il y a des sens qui ont un petit peu bougé autour des valeurs qui étaient prônées au moment de 2015. Donc c'est tout ça aujourd'hui être Charlie, où on ne sait plus trop situer parce que entre-temps, il y a eu le temps du débat. Et si aujourd'hui des gens se reconnaissent pas dans le mot d'ordre être Charlie, ça veut pas dire qu'ils n'iraient pas se mobiliser s'il y avait des attentats de nouveau dans les mois prochains.
Et je me permets juste une petite précision, les assassinats perpétrés par Mohamed Merah, c'était en 2012.
Oui, 2012.
François Jemani, il se porte comment aujourd'hui cet esprit Charlie, c'est-à-dire cet attachement à la liberté d'expression, à la laïcité, voilà, un tout un tas de valeurs qui sont censés fonder la République française. Comme le disait Magali Lafourcade, on voit quand même que ça s'est aussi transformé en combat politique, c'est-à-dire en appropriation par les différents groupes politiques.
Bien sûr. D'abord, je voudrais commencer par dire que je pense que ce type de moment de concorde nationale, non seulement existerait encore si de tels événements dramatiques se produisaient, mais se produit encore aussi régulièrement, pas seulement à l'occasion d'événements dramatiques. Regardons les Jeux Olympiques, c'était aussi un moment de concorde nationale qui dépassait largement, à mon avis, le cadre sportif. Cela étant, sur l'esprit Charlie lui-même, je pense qu'en réalité, c'est un concept qui est très polysémique et que cette polysémie, elle a évidemment fait sa force le 11 janvier au moment de la manifestation parce que chacun mettait un peu là-dedans ce qu'il voulait, ce dans quoi il se projetait, mais qu'aujourd'hui, effectivement, cette polysémie se transforme volontiers en combat politique parce que ça veut dire plein de choses à la fois et je vois au moins quatre choses que ça peut vouloir dire. D'abord, est-ce que l'esprit Charlie, c'est une adhésion à la ligne politique du journal? Là, c'est un peu compliqué parce que Charlie Hebdo, c'est un journal satirique qui n'a pas vocation par nature à être consensuel, qui choque encore régulièrement par différents dessins. Et d'une certaine manière, critiquer Charlie, ça fait aussi partie de l'esprit Charlie. Deux, Est-ce que l'esprit Charlie, c'est le droit de rire de tout, de déplaire aux puissants? Est-ce que c'est un droit inaliénable à la liberté d'expression et à la liberté de presse? Ça, je pense que ça suscite encore l'adhésion d'une majorité, d'une très large majorité de Français. Cela étant, force est de reconnaître que nous ne nous scandalisons pas lorsque le droit de la presse est menacé. Israël a encore récemment assassiné 5 journalistes du média Al-Quds parce que la ligne de ce média était considérée comme trop proche du Hamas. On ne s'est pas scandalisé, personne n'a hurlé à l'esprit Charlie à ce moment-là. 3. Est-ce que l'esprit Charlie, ça veut dire la lutte contre le terrorisme et contre l'islamisme? Là encore, je pense que ça pourrait rassembler, et je l'espère en tout cas, une majorité de Français, même si effectivement il y a eu, dans le passé récent, toute une série de compromissions avec certaines réalités de terrain, parfois des fins électoralistes, et que nous avons parfois été un peu aveugles à une certaine forme d'entrisme des frères musulmans, notamment en France. 4. Enfin, est-ce que l'esprit Charlie, c'est un attachement à la laïcité? Parce qu'au fond, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. Et là, malheureusement, je crains effectivement que cet attachement ne s'effrite. Simplement parce que ce concept, il faut le dire, a été aussi largement dévoyé, notamment par le printemps républicain à la suite des attentats, et que de plus en plus, la laïcité est perçue dans le débat public comme une forme de rejet de l'islam, et donc forcément, elle ne suscite plus aujourd'hui l'adhésion, notamment d'une majorité de jeunes, c'est assez évident dans les sondages, et je pense que c'est une catastrophe pour la laïcité, notamment du fait que le personnage politique qui l'incarne est sans doute le personnage politique le plus honni du pays, l'ancien Premier ministre Valls, et donc le risque pour la laïcité, je crois, c'est que le concept risque de s'éteindre avec la génération actuelle des éditorialistes des chaînes info.
Et en même temps, est-ce qu'on peut pas se dire que ça a été quelque chose finalement aussi d'intéressant et d'utile, Laetitia Strauss-Bonnard, pour rester sur cette question de la laïcité, après on réélargira à l'esprit Charlie, mais que de réorganiser un débat sur ce que cela veut dire que la laïcité, c'est-à-dire qu'était un concept dont on ne débattait plus tellement finalement dans la société française?
Bien sûr, mais je pense qu'on n'a pas tranché le débat, parce que pour moi, le problème n'est pas la polysémie du terme, c'est son ambiguïté. Quand on se place dans le temps du débat et non plus celui de l'émotion et de la solidarité, de l'empathie qui était absolument nécessaire à mon sens, quand on se place dans le temps du débat, eh bien, on se rend compte que les gens ne parlaient peut-être pas de la même chose. Je m'explique. Pour beaucoup de personnes, l'esprit Charlie, c'est devenu le droit au blasphème. Alors, ce droit n'existe pas tel quel. C'est plutôt, en fait, qu'on a supprimé au cours du temps le délit de blasphème. Mais bon, si on va vite, on peut dire qu'il y a une forme de droit au blasphème dans la plupart des démocraties libérales, et d'autant plus en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre d'un État, on a le droit de dire du mal d'une religion parce qu'on considère qu'une religion est une opinion comme une autre. Donc, on peut dire, on peut ridiculiser, désacraliser une religion dans le débat public. Mais quand vous êtes croyant, ça devient plus compliqué. Est-ce que pour les croyants, il y a un droit au blasphème? Pour les croyants dans les démocraties libérales comme la nôtre, et notamment pour les chrétiens, ça fait bien longtemps que les chrétiens ont appris finalement à distinguer le droit au blasphème comme exercice d'une opinion dans le cadre d'un État séculier et, à l'intérieur de leur religion, le blasphème, qu'ils ne soutiennent pas. Pour un croyant, le blasphème, c'est offensant, c'est dérangeant, c'est de la désacralisation. Mais tout le principe de la sécularisation, depuis des siècles, c'est d'avoir séparé le religieux du politique et de dire, dans le cadre temporel, le siècle, l'État, tout ce qui concerne la politique, on peut traiter la religion comme une religion, pardon, on peut traiter la religion comme une opinion. Dans le cadre spirituel, donc en ce qui concerne la foi de chaque croyant, eh bien, la religion reste bien plus qu'une opinion. Et la grande difficulté dans la situation actuelle, c'est que l'islam n'a pas forcément le même point de vue sur la sécularisation que les chrétiens ne l'ont. Les chrétiens, quand même, ont mis des siècles avant d'accepter cette séparation. Et d'ailleurs, cette séparation ne vient pas seulement de la laïcité. Hein. C'est déjà dès l'Antiquité qu'il y a une réflexion à la fois dans les Écritures et au sein du pouvoir politique sur la séparation entre les deux. Et bien sûr, ça a culminé avec l'esprit des Lumières. Mais on pourrait même dire, et certains chercheurs le font, que l'esprit de sécularisation est présent dans la religion chrétienne elle-même, qui sépare. Hein. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est ça aussi, si on sépare le politique du spirituel. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous qui sommes de culture chrétienne, même si nous ne sommes pas chrétiens tous, nous avons acquis, nous avons finalement incorporé cette vision de la sécularisation et de la séparation, ce qui fait que nous pouvons être à la fois très offensés, très choqués si nous sommes croyants de voir une caricature qui caricature par exemple les curés, ce que Charlie Hebdo fait en permanence. Mais nous pouvons aussi défendre bec et ongles le droit de Charlie Hebdo de publier ses caricatures dans une société démocratique, libérale et pluraliste. Or, pour les musulmans, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que dans le monde musulman, cette réflexion sur la sécularisation n'a pas eu lieu. Donc pour les musulmans qui vivent chez nous, on peut comprendre que de leur point de vue, ce soit une offense. Et que de leur point de vue, s'il n'y a pas de séparation très nette entre le spirituel et le temporel, dire du mal de la religion, c'est dire du mal d'eux. Donc vous voyez bien que tant qu'on n'aura pas fait ce travail d'explicitation de la nécessité dans nos pays à nous de séparer les deux, les musulmans continueront à ne pas comprendre qu'on ne juge pas leur croyance, leur foi. On veut mettre une distinction entre les règles qui ont cours dans la cité et les règles qui ont cours dans la sphère privée ou dans le cœur de chacun.
Est-ce que ça ne dépasse pas, Laetitia Strange-Bonnard, la seule communauté des croyants? Quand on regarde les études, alors là j'ai par exemple un extrait d'une enquête IFOP qui a été publiée en 2023, où il apparaît que alors cette idée que ça puisse être gênant de critiquer les religions, c'est quelque chose qui progresse beaucoup chez les plus jeunes. C'est-à-dire que c'est pas seulement des jeunes qui sont attachés à la religion, mais c'est qu'ils considèrent que bah voilà, l'offense, par exemple, en matière religieuse, c'est quelque chose de problématique.
Alors, là, ça complexifie un peu le problème. D'abord, dans ces jeunes, il y a des musulmans.
Bien sûr.
Par ailleurs, il y a des amis, des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui ont des amis musulmans. Et je pense qu'il y a un phénomène aussi de, disons, de solidarité. Vous êtes dans la même classe, donc bah, vous voulez défendre vos amis musulmans s'ils pensent qu'on ne peut pas critiquer l'islam. Et puis, en effet, on observe dans les jeunes générations une attention un peu plus importante portée à au sentiment d'être offensé. Il y a une susceptibilité plus importante aussi qu'on trouve dans ces générations là. Moi, je ne pense pas que ce soit le facteur le plus important. D'abord, les jeunes un jour seront moins jeunes et peut-être qu'ils seront plus mûrs et moins susceptibles. Et par ailleurs, là, c'est toute une autre dimension de nos sociétés qui est à l'œuvre. Certains chercheurs estiment, je pense notamment à Jonathan Haidt, qui est un psychologue américain à New York, estime que les jeunes aujourd'hui, la génération Z, a été beaucoup trop couvée par ses parents. Et que ces jeunes-là, qui arrivent donc à la fin de l'adolescence, à l'âge adulte, ont été extrêmement sécurisés dans leur éducation. Et donc se retrouvent ils ont l'impression d'être en danger quand ils font face à des opinions qui sont différentes des leurs. Ils n'ont pas été habitués à maîtriser, à faire face à un certain nombre de conflits, et notamment des conflits d'opinion. Mais je ne crois pas que ce soit le facteur le plus important. Moi, je reviens à cet enjeu de la sécularisation, mais je voulais terminer quand même par quelque chose qui concerne l'école. Je pense qu'il y a une énorme confusion en fait dans la façon dont l'État traite cette question de la sécularisation. D'un côté, l'État nous dit il faut respecter les valeurs de la République, même mieux parfois, on a l'impression qu'il faudrait les aimer, qu'il faudrait, disons, les adorer comme si c'était une religion. Mais du point de vue d'un croyant, c'est très étrange de dire tout ce qui concerne la politique, c'est finalement comme une autre religion, donc vous allez devoir remplacer votre religion par celle-là. Mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut au contraire être extrêmement strict sur le respect de la laïcité, donc notamment à l'école, en expliquant que la religion n'a pas de prise sur les décisions et les décisions d'éducation et sur les décisions qui ont lieu tous les jours dans une salle de classe.
Qu'en pensez-vous, François Gemène ?
Je pense que c'est très important, effectivement, cette idée que l'attaque contre une religion ou contre des figures, des représentants de cette religion ou des prophètes de cette religion, ne doit pas être assimilée à une attaque contre des gens, contre une communauté ou contre des gens qui pratiquent cette religion. Et ce que dit Laetitia sur effectivement cette nécessaire réflexion dans l'islam sur la séparation du temporel et du spirituel est absolument nécessaire. Et il y a aussi, je crois, un besoin d'explication dans le débat public. Or, aujourd'hui, il y a cette explication qui n'est plus faite. Et donc, il y a un vrai besoin de pédagogie sur ce concept de laïcité. Sinon, comme je l'ai dit, je crains effectivement qu'il ne s'éteigne avec le temps, parce que de plus en plus de jeunes ne se reconnaissent pas dans ce concept, le voient comme une attaque, soit contre eux-mêmes, soit contre leurs amis. Et donc, effectivement, le concept risque de disparaître, ce qui serait évidemment une catastrophe. Ça implique aussi de ne pas appliquer ce concept à géométrie variable. Et donc, on a l'impression parfois que la laïcité, c'est juste bon lorsqu'il s'agit d'islam, mais lorsqu'il s'agit de catholicisme, par contre là, on est prêt à différents accommodements. Ça implique, je crois, si on veut tenir la digue, ça implique effectivement de ne pas appliquer le concept à géométrie variable.
Magali Lafourcade, l'esprit, Charlie, c'était aussi et peut-être avant tout la défense de la liberté d'expression. Est-ce que 10 ans après, vous diriez que la liberté d'expression, elle est menacée? C'est ce qu'on entend souvent. Et en même temps, on note que la parole n'a jamais été autant libérée, notamment, mais pas seulement, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe?
Oui, il y a un paradoxe. On peut dire que, d'abord, quand même, Charlie a essuyé beaucoup de procès intentés par l'État pendant longtemps. Maintenant, les procès qui ont été intentés après, par la suite, c'était plutôt par des associations religieuses. Donc, on voit déjà une évolution. Et puis, moi, je crois quand même que la liberté d'expression, il faut rappeler qu'elle n'est pas absolue. Elle a des bornes, que donc Charlie Hebdo s'emploie à respecter malgré toutes les révérences qui est la sienne, et c'est très bien. Et donc, dans ces bornes, c'est l'ordre public et les droits d'autrui. Je voudrais citer, si vous le permettez, la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'y a pas de société démocratique. Ça, c'est fondamental. Et ça, je crois que c'est tout à fait quelque chose sur lequel les Français sont prêts à s'engager encore et encore. Voilà. L'humour élargit un petit peu les bornes de la liberté d'expression à partir du moment où on est dans un contrat avec le lecteur. Ce que fait Charlie Hebdo, c'est que il est acheté, je crois que c'est 3 € par numéro, vous l'achetez et vous savez que il y aura un certain nombre de codes, de choses, de références qui sont le socle commun sur lesquels se bâtit l'humour.
Et son audience d'ailleurs est d'ailleurs revenue, on va dire, un étiage beaucoup plus
faible,
classique. Voilà. On est à 55 000 numéros de manière à peu près.
Exactement.
Parce que c'est quand même monté jusqu'à 8 millions,
millions
pour le
moment de numéro des survivants. Voilà, ouais. Il y aura sûrement un beau tirage pour celui de mardi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les bornes de l'humour permettent une liberté d'expression accrue, mais pour autant on a quand même, moi je pense pas que ce soit une question d'âge sur cette nouvelle génération qui comprend pas cet humour Charlie. C'est que donc les caricatures qui ont pu circuler, elles ont été décontextualisées puisque donc dans un contrat de lecteur, on sait à quoi s'attendre quand on voit des caricatures. Et je crois qu'on est face à une génération qui refuse les atteintes, la moquerie sur le corps ou sur l'identité. Et donc cette évolution de l'humour, ça veut pas dire que c'est une génération qui rigole pas, hein, mais elle est sur d'autres supports. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le dessin de presse satirique est en train de régresser en même temps que la presse écrite. Mais dans le même temps, on voit que le dessin est utilisé dans d'autres supports. Je pense aux bandes dessinées formidables sur l'incroyable histoire d'eux. Il y a tout un tas de sujets qui sont déclinés. Ou dans les sujets d'écologie sur le monde sans fin ou comment les riches ravagent la planète, qui utilisent le dessin pour pouvoir expliquer des notions compliquées. Mais par rapport à cette génération, je crois que l'explication qui doit être faite pour recontextualiser la caricature, à quel point ça a été un outil d'émancipation de la presse, à quel point c'est un moyen d'exprimer en très peu d'instants quelque chose de très fort, et après d'en tirer les notions de liberté d'expression et de laïcité comme valeur fondamentale dans notre république, c'est extrêmement important. Et ce qu'a dit Laetitia Strobonard tout à l'heure sur le rôle de l'école est à mon avis crucial.
Et quand on parle de caricature et d'école, il faut évidemment rappeler que c'est après que Samuel Paty avait montré des caricatures de Charlie Hebdo devant sa classe, qu'il y a eu un enchaînement absolument tragique et qu'il a été assassiné. Et le procès de des complices de son assassin s'est terminé au mois de décembre. Sylvie Kaufmann, est-ce que vous diriez aujourd'hui, vous encore, enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous assumeriez de dire je suis Charlie, puisqu'on était quand même un certain nombre, en tout cas 2015. Tout le monde ne l'était pas, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'il veut pas dire que quand on l'était pas, comme je ne sais plus qui l'a rappelé, on adhérait à ce qui s'était passé à Charlie Hebdo, mais est-ce que ça, c'est encore quelque chose qui peut avoir une force?
Bien sûr, non, je pense qu'on peut toujours dire aujourd'hui je suis Charlie, mais ça ne veut pas forcément. Je veux dire, le débat a évolué. Alors, vous parliez de Samuel Paty, je voudrais aussi parler de Dominique Bernard. Donc, il y a quand même eu ces deux événements.
Autre enseignant, hein,
terrible, voilà, de ces deux professeurs assassinés et qui. Et, qui font évoluer le débat aussi, qui montrent aussi que dire je suis Charlie aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose que qu'il y a 10 ans. Les choses ont évolué. D'abord, le terrorisme islamiste est devenu quelque chose, un fait de notre vie quotidienne. Il ne faut pas oublier que plein de dessinateurs aujourd'hui vivent sous protection policière. Et quand on dit, on a cette expression pudique d'avoir un officier de sécurité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'en connais des dessinateurs qui vivent comme ça. Ça veut dire avoir un policier qui vous sert de garde du corps 24 heures sur 24. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est un mode de vie. Tout ce terrorisme islamiste a quand même modifié en grande partie nos modes de vie. Et on ne peut pas en faire abstraction complètement. Je trouve ce débat sur les jeunes très intéressant parce que c'est vrai que cette idée qu'on ne peut pas rire de tout est maintenant assez bien admise. Alors, est-ce qu'on peut dire « je suis Charlie » et en même temps, on ne peut pas rire de tout ? Oui, je crois. Il faut tenir compte de l'évolution des mentalités. Les jeunes, en effet, vivent dans un environnement plus diversifié, plus divers, à la fois sur le plan religieux, sur le plan ethnique, sur le plan peut-être social aussi qu'avant. Et donc, ils sont plus sensibles. Il y a aussi l'affaire des réseaux sociaux qui fait que leur sensibilité est exacerbée aux réactions des autres. Donc là, on voit que c'est peut-être plus difficile aujourd'hui dans cette catégorie de la population d'être Charlie au sens où on l'entendait il y a 10 ans. Il y a la montée du fait religieux, la montée y compris sur le plan mondial. On voit bien que à part en Europe et encore, les religions sont en croissance constante et l'islam est la religion qui connaît la plus forte croissance dans le monde actuellement. Et les pays où la religion est la plus forte sont ceux qui ont la plus forte croissance démographique. Donc c'est même en Europe, qui est le continent le moins religieux, l'athéisme perd du terrain. On voit les églises évangéliques et pentecôtistes s'étendre. Donc tous ces facteurs font que le débat évolue et en même temps, la valeur liberté d'expression reste quelque chose de très de respecté. Je crois que j'ai lu que Charlie Hebdo dans son prochain numéro cette semaine va publier un sondage IFOP Fondation Jean Jaurès qui montre que la liberté d'expression reste extrêmement reste soutenu par une très forte proportion de la population. Et ça, c'est intéressant, parce que malgré tout ce qu'on vient de décrire, malgré ces réserves qu'on peut avoir, cette évolution du débat d'une certaine manière, l'irruption aussi du débat sur l'islamophobie, qui a beaucoup modifié les choses, les Français restent très attachés à cette valeur de la liberté d'expression.
Un dernier mot avec vous, Magali Afourcade, sur alors ce qui se passe en janvier 2015, puis novembre 2015, donc des attentats, il y a des législations antiterroristes qui sont renforcées, avec certaines mesures d'exception qui entrent dans le droit commun. Je sais qu'à la CNCDH, à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, vous êtes très attentif à tout ce qui se passe autour de ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu une acceptation extrêmement forte de ces mesures que d'aucuns considèrent comme liberticides? Est-ce que ça, c'est pas antinomique avec ce qui est censé être l'esprit Charlie?
Oui, c'est tout à fait antinomique. C'est-à-dire qu'on a même eu des missions d'information qui ont montré que l'intérêt de prolongation de l'état d'urgence était devenu interstitiel. Et on a vu à quel point les libertés se sont sous le coup de deux états d'urgence, donc antiterroristes et sanitaires. On n'est pas revenu au statu quo ante, c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu à l'état de nos libertés avant. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'autant cette liberté d'expression est extrêmement valorisée, autant d'autres libertés, comme la liberté de manifestation, ont été extrêmement atteintes dans le pays et on s'est accoutumé à ces atteintes-là. Et donc, le fait d'avoir encore des journaux qui sont irrévérencieux est une façon aussi de résister à cet esprit du temps.
J'ai encore 30 secondes à offrir. Qui les prend, François Gemène ou Laetitia Strauss-Bonnard?
15 secondes.
Non, allez-y, Laetitia.
Je voulais simplement dire un mot sur la liberté d'expression. Je ne pense pas qu'elle soit en danger. Je pense que ce qui la menace a changé de nature. Auparavant, c'était les États. Aujourd'hui, ce sont plutôt les gens, c'est-à-dire la foule. Finalement, la liberté d'expression se porte mieux parce que c'est faux qu'on ne peut plus rien dire. On peut dire énormément de choses. Cependant, il faut s'attendre, quand on dit des choses qui déplaisent, à recevoir des critiques. C'est ainsi la vie du débat.
Conclusion, François Gemène.
Dans le même esprit, je pense qu'ici, c'est un enjeu de démocratie. le fait d'accepter que le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un ne fait pas de cette personne votre ennemi. Le fait d'être choqué par un dessin ne fait pas du dessinateur votre ennemi. Et ça, c'est un enjeu fondamental de démocratie. Et je pense que c'est là où les responsables politiques ont une responsabilité particulière, notamment quand on voit les insultes ou les noms d'oiseaux qui s'échangent sur les réseaux sociaux ou à l'Assemblée.
Oh, je vous avais dit 30 secondes, c'était une minute, mais je le savais à l'avance. Hein. C'est pour vous obliger à faire court tous les quatre. Merci Magali Lafourcade, François Chemin, Laetitia Strange-Bonnard et Sylvie Kaufmann. L'Esprit public, une émission préparée chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jean Reynaud, avec à la prise de son Noé Chaban, émission que vous pouvez réécouter sur l'appli Radio France. À dimanche prochain.